les enfants, c'est une richesse.
Pour ceux qui ont des enfants, c'est une richesse que vous avez, que nous avons. Un vieux pasteur était sur son lit de mort et il envoya un message à son médecin et à son avocat, tous les deux membres de son église, et pour qu'ils viennent à sa maison, à son chevet. Et donc, quand ils arrivèrent, ils allèrent rapidement dans sa chambre. Et puis, alors qu'ils entraient, le pasteur leur fit signe de se mettre un à droite et un à gauche. Et puis, de chaque côté du lit. Et puis, le pasteur leur prit la main. Et puis, il sourit fixement en regardant le plafond. Puis, pendant un moment... l'avocat et le médecin n'osaient rien dire, ils restaient silencieux, ils se demandaient quel honneur leur était fait. Ils n'avaient jamais pensé que ce pasteur les aimait autant. Ils étaient d'ailleurs assez flattés que le pasteur leur demande de venir à leur chevet. Eux qui se souvenaient des nombreux sermons que donnait le pasteur, interminables et embarrassants au sujet... de l'avarice, de la convoitise, de l'envie, et ça les faisait tortiller sur leur chaise tant ils étaient embarrassés. Et puis finalement, le médecin se décide à demander, il dit « Pasteur, il dit, pourquoi m'avez-vous demandé de venir ?» Et le vieux pasteur ramena ses dernières forces pour se lever un petit peu. Et puis d'une faible voix, il dit « Jésus est mort entre deux brigands, et c'est de cette manière que je veux partir. » Ce matin, comme cela a été décidé par l'Assemblée Générale de l'Église, on va parler d'argent. Alors c'est toujours un sujet un peu embarrassant dans l'Église d'aborder, et dans l'Église avec un grand E en général, d'aborder la question de l'argent, parce que dans l'inconscient collectif, ça relève l'argent, c'est le monde séculier, c'est pas, ou alors ça, c'est les sectes qui parlent d'argent. Et la première chose quand on vous demande, je suis allé dans une église, elle a pas trop de nom, on sait pas où c'est rue de Bapaume et tout ça, ils vous ont demandé des sous. c'est un gage de dire on n'est pas dans une secte, quoi, si on demande pas d'argent aux gens. Pourtant, il paraît qu'on trouve dans la Bible, et je n'ai pas compté, c'est pour ça que je dis qu'il paraît qu'on trouve 2084 allusions à la richesse et à l'argent, contre 215 à la foi et 208 au salut. Ça en dit long sur la nécessité d'aborder l'argent, les richesses, ce thème-là dans l'Église. Et quand on lit l'apôtre Paul, notamment l'épître aux Corinthiens, où il exprime des choses extraordinaires, au chapitre 15, il commence à parler. Alors il a parlé du salut, de la grâce qui nous est faite en Jésus-Christ, et il termine là par la collecte. Et on se dit, mais qu'est-ce que ça vient faire là dans le... Mais si, ça fait partie de notre vie spirituelle. En fait, quand on lit les Écritures, il n'y a aucun clivage entre le matériel et le spirituel. Et les nombreux préceptes relatifs aux richesses dans l'Ancien Testament, aussi bien que dans le Nouveau, témoignent que c'est un domaine particulier et sensible que la richesse et l'argent. Une zone test pour notre foi, un lieu où il faut être vigilant, et un terrain qui peut être souvent glissant. Et c'est donc sans hésitation et souvent sans réserve que les auteurs bibliques abordent ce sujet, à commencer par Jésus lui-même. Et pour les auteurs bibliques, La richesse, c'est pas quelque chose de mauvais en soi. Hein, plusieurs personnages bibliques célèbres étaient riches. Et c'était considéré comme une bénédiction, Job, Abraham, Salomon. Ce qui pose problème, c'est de savoir ce qu'ils font de ces richesses. C'est l'usage ou l'attitude qu'on adopte face à elles. Et la Bible ne se préoccupe pas de combien, mais de comment. Je voudrais vous lire le texte qui va illustrer un petit peu l'exhortation ce matin. C'est un texte que vous connaissez bien, qui se trouve dans Marc, chapitre 12. Jésus est dans le temple, et Marc, à partir du verset 41, nous raconte cette petite histoire où Jésus s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardez comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve et elle y mit 2 pièces, faisant 1/4 sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Car tous ont mis de leur superflu, mais elle, elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle possédait. » Tout ce qu'elle avait pour vivre. Et j'ai passé quelques heures ce matin à observer avec Jésus cette pauvre veuve, avec beaucoup d'émotion. Et je vous invite, en fait, par cette lecture, à rejoindre Jésus, qui nous raconte cette histoire, et à regarder avec les disciples cette veuve. Le trésor du temple se trouvait dans le parvis des femmes. Et c'était constitué, selon les rabbins, de 13 coffres qui avaient une forme de trompette, hein, et où les gens venaient déposer de l'argent. Et c'était ce qu'on appelle l'offrande volontaire donnée pour le culte du temple. Et Jésus est assis là, dans cette dépendance, et il regarde les gens en train de mettre de l'argent dans le tronc. Et puis il appelle ses disciples, il dit, venez voir un petit peu, venez regarder, il va se passer quelque chose là. Et ils regardent tous la même chose, mais ils ne voient pas la même chose. Et c'est là où Jésus nous invite à ouvrir nos yeux et à regarder avec ses yeux à lui cette scène. Les disciples voient, en fait, dans le temple, dans les pierres, dans le Saint des Saints, le propitiatoire, le lieu où siège la gloire de Dieu. Et Jésus voit dans cette pauvre veuve le lieu où siège la gloire de Dieu. Ce qui constituait surtout la supériorité dans l'offrande de la veuve sur celle des autres, c'était ses motifs. Et c'est là où Jésus va essayer de faire comprendre aux disciples la valeur morale de son cœur, de son geste. Elle ne fait pas une aumône, cette veuve, elle fait un don. Un don pour le culte divin, et c'est inspiré par l'amour qu'elle a pour Dieu. Manifestement, elle lui avait donné tout son cœur à Dieu, toute sa vie. Et cela se manifeste dans ses 2 pièces qu'elle met dans le tronc, tout ce qu'elle avait, tout ce qu'elle avait. Et ce qui n'est pas moins touchant dans son geste que son amour, c'est sa totale confiance en Dieu, sans borne. Parce que en mettant ces 2 pièces, elle se remet à Dieu entièrement pour son avenir. Moi, je me souviens que c'était difficile. Quand plus jeune, j'étais invité à donner dans le panier de la collecte. Surtout quand maman me donnait une pièce de 5 francs. Parce qu'on ne peut pas, 5 francs, c'est 1 euro, quoi. Enfin, un peu moins d'un euro. Parce qu'on ne peut pas la diviser, quoi. C'est soit je donnais tout, soit je donnais rien. C'était comme ça. Et c'est cette fameuse histoire du petit garçon qui a ses deux pièces du dimanche, et vous la connaissez tous, mais c'est bon de s'en rappeler et pour mettre dans le panier de l'offrande. Il mettait une pièce et puis il en gardait une pour lui, c'était comme ça, c'était son dimanche. Et puis une des pièces glisse dans l'égout, et puis il fait cette prière: Seigneur, il dit, je suis désolé, ta pièce est partie dans l'égout. Mais ça révèle, cette petite histoire révèle beaucoup de choses de ce là où on place notre confiance et notre espérance, là où on place son cœur, là où est ton cœur, là est ton trésor. On pourrait dire aussi, là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. La beauté du geste que cette veuve a fait, c'est qu'elle avait ces deux pièces. Et un commentateur que j'ai lu, qui s'appelle Bengal, il dit, mais elle aurait pu en mettre une et garder l'autre pour elle. Non, elle a mis les deux. Et ce geste est beau parce qu'il est discret, parce qu'il faut l'observer pour le voir. C'est parce que Jésus savait et qu'il faut avoir un œil averti pour voir que cette dame mettait ces deux pièces, parce que deux petites pièces en cuivre, ça fait pas beaucoup de bruit dans les trompettes, comme ils appelaient ça, dans le tronc. Il fallait que ça fasse du bruit. Ce geste n'aurait pas eu tant de valeur si elle avait su que le Sauveur du monde la regardait, que cette histoire, on la raconterait 2000 ans plus tard, comme je le fais aujourd'hui, comme un exemple extraordinaire de confiance en Dieu, de générosité aussi. Si on ne connaît même pas son nom à cette femme. D'ailleurs, heureusement qu'on ne connaît pas son nom, parce qu'en fait, tous les instituts de charité porteraient son nom. Ce qui compte, en fait, dans cette histoire, c'est pas quand on donne, c'est pas le regard qu'on peut avoir sur nous-mêmes, ni même celui des autres. Ce qui compte, c'est le regard de Dieu. Quel regard il a sur nous lorsque nous le prions? Quand on pense qu'on a dit ce matin, c'est par amour que Dieu nous a donné son Fils, son unique, parce qu'on en avait besoin, parce qu'on ne pouvait pas faire autrement que d'accepter ce Fils pour être sauvé, que d'accepter le sacrifice de Jésus-Christ pour notre salut. C'est son regard, le regard de Christ, le regard de Dieu qui nous dit vraiment qui nous sommes et la qualité du don que nous pouvons lui faire. Et il n'y a rien d'autre qui compte à côté. Il faut quand même reconnaître que dans cette histoire, cette veuve, elle n'est pas très raisonnable. Ce n'est pas un geste très raisonnable. Si un jour, il y a un de vos enfants qui vous dit, il a sa famille et tout ça, et puis il vous dit, je donne tout. Je donne tout, tout, tout. Et puis j'arrête mon travail et tout. Et je donne tout pour le Seigneur. On se dit, non, écoute, attends, réfléchis un peu. C'est pas raisonnable d'agir comme ça. Et c'est vrai, c'est un geste qui est déraisonnable. Parce que peut-être qu'une heure plus tard, cette dame, elle va se rendre compte qu'elle est même plus capable de répondre à ses besoins existentiels, à s'acheter à manger. Mais cet acte extravagant, on va en retrouver un peu plus tard, au chapitre 14, quand Marie de Béthanie, la sœur de Lazare, va briser ce vase avec un parfum précieux. Et les disciples vont s'en offusquer en disant, mais comment on aurait pu vendre ce parfum et le donner aux pauvres. Et Jésus leur dit, faut pas la critiquer, elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a fait ce qu'elle a pu. Parce que Jésus, il voit pas la même chose que nous. La valeur qu'il donne aux choses n'est pas perverti comme notre cœur. On donne des valeurs aux choses qui ne sont pas. Nos regards sont corrompus quand on regarde les choses matérielles, les richesses. Qu'on le veuille ou non, en fait, dans les évangiles, Jésus va personnifier l'argent en le nommant Mammon. C'est dans les évangiles, dans le Nouveau Testament, c'est le seul endroit, la seule chose qu'on va personnifier comme un démon. On va lui donner un nom, Mammon, l'argent. En disant, vous ne pourrez servir Dieu et Mammon, dans Matthieu chapitre 6, verset 24. Et il fait de l'argent une sorte de Dieu concurrent. C'est la seule idole qui soit personnifiée par Jésus. Et d'emblée, Jésus exclut en disant ça toute possibilité de partage. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. C'est pas possible. L'argent, ça représente une puissance non seulement concurrente, mais aussi opposée à la démarche de la grâce qui est par définition une œuvre de gratuité. L'argent, c'est opposé à la grâce, complètement. Et vous trouvez ça, la Bible dénonce à plusieurs reprises les effets pervers des richesses et des biens matériels sur l'homme. Mammon se conduit en fait en véritable tyran. On dit souvent, hein, l'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Jacques Ellul, un philosophe, mais il était historien, protestant, dans Argent, épreuve du chrétien, fait remarquer que dans les textes bibliques, l'argent est rarement considéré comme un objet neutre, mais comme un sujet qui agit aussi bien à l'égard de celui qui ne l'a pas et qui alors le désire ou plutôt est désiré par l'argent que celui qui le possède et obéit à ses lois. En fait, Mammon, il a ce redoutable pouvoir de prendre de plus en plus de place dans nos existences. Celui qui aime l'argent, dit l'Ecclésiaste, n'est pas rassasié par l'argent. Chapitre 5, verset 9. Autrement dit, celui qui veut l'argent, il en voudra toujours plus. Vous savez, on dit toujours que le rêve du millionnaire, c'est de devenir milliardaire. Hein ? Mais je l'ai entendu d'un millionnaire. Le bonheur. Jacques Ellul dit un peu plus loin, ainsi, le bonheur d'argent est comme une ligne d'horizon qui s'éloigne au fur et à mesure que l'homme cherche à s'en approcher. Et c'est précisément cet engrenage infernal lié à l'argent que Jésus veut dénoncer. Et il y a des prophètes qui le dénoncent aussi, comme le prophète Ésaïe. Et je vous demande, écoutez bien ceci. C'est écrit par donc Ésaïe 700 ans avant Jésus-Christ, et c'est criant de vérité pour notre époque. Quel malheur de voir ces gens qui ajoutent une maison à une autre et annexent champ après champ. À la fin, ils ont pris toute la place et il n'y a plus qu'eux dans le pays. En fait, l'argent met en lumière la prétention du cœur de l'homme à vouloir prendre toute la place dans cette existence, et même la place de Dieu, si cela était possible. Je vous parle là de la confiance. De la confiance. Qu'est-ce qui vous rend confiant dans la vie ? Je le dis souvent, hein. Est-ce que c'est d'avoir des bonnes assurances ? D'avoir de l'argent sur votre compte en banque, qu'est-ce qui vous rend confiance? Qu'est-ce qui vous donne confiance dans l'avenir de vos enfants? Hein, qu'ils aient un bon travail, qu'ils gagnent de l'argent, qu'ils puissent s'en sortir, voilà, quel que soit le travail, du moment qu'ils gagnent. Hein, c'est une erreur. Et on le voit dans la vie des gens. Ça ne rend pas heureux. Parmi les dérives liées à cet engrenage de l'argent et des richesses, il y en a donc trois qui sont relevés. Et j'ai tiré ça sur une étude que je vous invite à lire, qui s'appelle « La Bible et l'argent, les finances dans l'Église ». Vous rentrez la Bible et l'argent, vous trouverez sur Internet et vous trouverez le texte, qui est très intéressant, très équilibré. Et il relève trois choses pour lesquelles la Bible nous interpelle plus particulièrement. Premièrement, c'est l'idolâtrie. En faisant de l'argent ce mammon qu'on sert à côté ou à la place de Dieu. Et l'apôtre Paul, en Colossiens 3:5, dénonce l'avarice comme un acte d'idolâtrie. Ensuite, deuxièmement, il y a l'esclavage. C'est l'histoire du jeune homme riche dont va nous parler Marc. Et en fait, il en parle au chapitre 10, juste avant. Hein, qui n'est pas prêt à se défaire de ses richesses pour suivre Jésus. Et Jésus lui donne un sacré challenge. Il dit « Vends tout ce que tu as, si tu veux me suivre, donne-le aux pauvres et suis-moi. » Et le jeune homme riche s'en alla tout triste. Pourquoi ? Parce que Jésus a mis le doigt sur son esclavage. Et troisièmement, c'est l'endurcissement du cœur. Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dit Paul à Timothée, en 1 Timothée chapitre 6, versets 9 à 10, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. C'est terrible. Alors, je sais que c'est pas très gai, quoi, de parler de ça dimanche matin. Mais il y a des solutions, il y a des solutions. Et je vous en parle, pas que moi je suis sorti de cet amour de l'argent. Il faut en sortir. C'est une lutte qu'il faut faire. C'est une lutte qu'on doit faire sur nous-mêmes. Et les solutions, elles nous rendent heureuses. C'est du positif. Et là, on est en train de parler. Il y a un lien très fort entre notre vie spirituelle et ce qu'on fait de nos richesses. Il est très fort, ce lien, de la manière dont on gère ce que Dieu nous a donné. Les richesses, j'entends les richesses, on parlait des talents, de les mettre au service de l'Église, les dons que Dieu vous donne, mais aussi l'argent que vous avez, les biens que vous pouvez avoir. Le premier repère que la Bible pose pour nous aider à prévenir ces dérives, c'est d'affirmer que l'argent et les richesses sont subordonnées à Dieu. L'or et l'argent du monde entier m'appartiennent, dit Dieu par la bouche du prophète Agée. L'homme n'est donc pas propriétaire absolu des richesses, mais il n'est que le gérant des richesses. Je me souviens, quand j'étais au Cameroun, il y avait un gestionnaire qui m'avait précédé au dispensaire et qui, en gestionnaire, avait pris l'argent du dispensaire et s'était acheté une voiture et fait construire une maison. Il a fait fort. Comme dit Tarsis, il a fait fort. Est-ce que c'était un bon gérant ? Non. Non. Parce que il a géré l'argent comme si c'était à lui. Mais pensez un petit peu comment nous gérons l'argent, nos propres biens. On dit c'est à moi, c'est à moi. Il faut réfléchir. Donc on n'est pas propriétaire absolu des richesses, mais on n'est que le gérant. Et savoir cela, ça change bien des choses dans nos existences par rapport à l'argent. Parce que en tant que gérant des richesses qui me sont confiées, j'ai des comptes à rendre, premièrement. Je ne peux pas faire ce que je veux, et surtout, je ne peux pas être possédé par ce qui ne m'appartient pas. En pensant comme ça, vous retirez le pouvoir que l'argent peut avoir sur vous. Ce n'est pas à vous. Qu'as-tu que tu n'aies reçu, dit Paul aux Corinthiens. Et si tu l'as reçu, pourquoi t'en glorifies-tu? Et là, il est en train de parler des talents qu'on peut avoir. C'est la même chose. Ce sont des richesses qui nous sont données. Je ne fais pas la différence. Et cela aussi change dans notre manière de donner. Parce que, en fait, ce don que je fais au Seigneur, dans l'offrande, c'est prélevé sur ce qui lui appartient. C'est pas à moi. Et Il est le donateur de tous nos biens. Ainsi, je ne donne pas parce que Dieu en a besoin, mais parce que moi, j'en ai besoin. Deuxièmement, à côté de l'affirmation que Dieu est bien le propriétaire absolu de nos richesses, la pratique du don, c'est le deuxième repère biblique dans le rapport que l'homme est amené à avoir avec l'argent. Tel qui fait des largesses devient plus riche, nous dit les proverbes, tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Méditez cette parole. Dans un pays où on nous dit, bon, il faut mettre de côté de l'argent au cas où il va arriver, j'ai une maison mais je vais en acheter une deuxième parce qu'il faut que j'investisse. Il faut investir. C'est pas mauvais, mais pourquoi ? La retraite. Faut réfléchir. C'est important. Pour Jacques Ellul, le don est une profanation de l'argent. Et le don désacralise l'argent. Il l'empêche de devenir une idole dans notre vie. Et j'ai déjà fait l'expérience, je vous l'ai déjà dit, mais donner une somme un peu déraisonnable, qui vous semble déraisonnable. Oh, moi, je ne vais quand même pas donner tout ça. Si. Je ne vous parle pas de les donner à l'Église. Donnez-le à quelqu'un en anonyme. Vous retirez le pouvoir de l'argent tout à coup, pour un temps. Pour un temps sur votre vie. Parce que vous le traitez de la manière dont il doit être traité. L'argent, il est fait pour être distribué. Pour nous servir, nous aussi, mais pour être distribué. Pas pour croupir quelque part où on entasse les richesses. Le don introduit, donc, dans le domaine de la concurrence et la vente, la dimension de la gratuité. Et c'est Ésaïe qui nous raconte ça. Dans Ésaïe 55, il le dit très clairement, « Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans payer. » C'est acheter sans payer. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est le don. C'est ça la grâce. L'achat et la gratuité se mélangent jusqu'à se confondre. C'est parce que nous avons reçu gratuitement que nous sommes invités à donner gratuitement. Et c'est Jésus qui le dit à ses disciples en parlant des dons qu'ils avaient reçus. Et quand il les envoie en mission, vous voyez ça dans Matthieu chapitre 10. Un missionnaire raconte cette histoire de la pauvre veuve. Mais en fait, il était en train de présenter le travail missionnaire en Chine à une petite assemblée d'une quarantaine de personnes. Et il y avait là une assemblée comme la nôtre. Et il y avait là une vieille dame catholique. Et c'était la seule visiteuse, je dirais, ce dimanche-là. Et à la fin du sermon, cette dame s'est levée, puis elle est partie. Et alors que l'assemblée elle chantait les derniers cantiques, la dame est revenue et puis elle a donné des pièces à un des responsables. Et il dit, ça c'est pour l'œuvre de Dieu en Chine. Et après la louange, une des personnes responsables de l'Église est venue dire au missionnaire les paroles qu'elle avait dites. Elle a dit « Prenez ceci et donnez-le à cet homme pour la Chine et que Dieu le bénisse. Je n'ai que 30 cents. J'en avais amené 5 avec moi pour la collecte, mais en entendant les besoins en Chine, je me suis dit que je devais rentrer chez moi chercher les 25 autres cents pour les donner et de garder ces 5 pour moi. » Bon, vous n'avez pas à faire cela. Mais elle l'a fait. Elle a mis de son nécessaire. Et je ne peux pas m'empêcher, en lisant ce texte, de me poser cette question et de vous la poser ce matin. Est-ce que vous avez déjà donné à Dieu quelque chose qui vous a coûté, qui a représenté pour vous peut-être un sacrifice? Qu'est-ce que je suis en train de faire là ? David, un homme qui avait un cœur selon Dieu, en 2 Samuel 24, dans une histoire très intéressante que je n'ai pas le temps de vous raconter, et il dit « Je n'offrirai point à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes qui ne me coûtent rien. » Même si ce n'est pas le sujet de ce matin, ben, il y a de nombreux passages dans la Bible qui nous révèlent que Dieu nous rendra ce que nous lui avons donné au centuple. Si Dieu désire que nous lui donnions des choses, ce n'est pas parce qu'il en a besoin et qu'est-ce qu'il a à faire de notre argent, franchement. Ah, il n'en a rien à faire. C'est parce que nous, on a besoin de le donner. C'est une nécessité dans notre existence. C'est une nécessité pour le royaume des cieux. Proverbe 3, 8, 9. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de moût. Et bien sûr, il confond le spirituel et le matériel parce que tout va ensemble. La grandeur du don ne se mesure pas à sa taille, mais au cœur de celui qui le donne. C'est l'enseignement de cette pauvre veuve. Et on a tendance à mesurer la grandeur du sacrifice par son apparence extérieure et probablement parce que ça gratifie notre ego. Et on peut dire oh, « tu te rends compte tout ce qu'il a donné ?» Quand même. L'assemblée où Yolande va, il y a un... Je raconte aussi cette histoire. Hein. Alors, ça peut vous sembler complètement absurde, mais c'est comme ça, c'est dans son cœur. Il avait décidé de donner 10% de ses revenus pour l'œuvre de Dieu. Alors, pas dans l'Église seulement, mais pour des œuvres caritatives à droite, à gauche. C'était... Et puis, il fait cette prière à Dieu et il dit si tu me donnes plus de richesses, Seigneur, je te donnerai 20%. Et puis, il a eu plus de richesses, il a eu donné plus de 20%. Je ne suis pas en train de vous parler de l'évangile de la prospérité, attention. On est en train de dire comment se débarrasser des sous, pas comment en avoir plus. Hein? C'est un petit jeu à comment donner de l'argent. Bien, donner son argent. Puis il dit, Seigneur, si tu me donnes encore plus, je donnerai 40%. Et il est arrivé à donner 75% de ce qu'il avait. La question, ce n'est pas, il a donné 75%. Mais il l'a fait. C'est ça qui est intéressant dans cette histoire. Il l'a fait. La valeur du sacrifice, c'est le cœur de celui qui le fait. Et il y a de la paix et de la joie à recevoir quand on le fait. C'est pas un sacrifice, comment on va sacrifier. C'est quelque chose de bonne odeur, c'est quelque chose qu'on est content de donner. C'est comme Jésus qui donne sa vie pour ses amis. Il dit, il me tarde de pouvoir le faire. À la fois, ça lui a dû coûter et il a peur, mais il lui tardait de pouvoir le faire, de vivre ce moment. Et c'est pas la paix et la joie qui sont le fruit de celui qui donne, mais c'est celui qui reçoit. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et c'est une parole qui nous est rappelée par Paul, qu'on ne retrouve pas dans les évangiles, mais c'est Jésus qui l'aurait dite. Alors, je conclue avec ça. Le but dans tout ça, dans cette exhortation, ce n'est pas de grossir la collecte, même si on a besoin pour des projets. Mais il faut avoir des projets. Et il faut avoir l'ambition de ces projets pour aider des gens. L'idée, et ça a été dit ce matin, c'est qu'il n'y ait pas de démunis quoi, dans l'Église. Qu'on puisse aider des gens à droite, à gauche, ici, mais aussi dans l'Église persécutée, au-delà de nos frontières. C'est ça. C'est nous encourager. L'idée, c'est de donner à Dieu tout ce que nous avons. Tout ce que nous avons. J'écoutais un jour un prêtre qui parlait, il disait, il faut donner aussi vos mains, vos pieds, votre langue, vos oreilles, il faut donner vos enfants, il faut donner votre époux, votre épouse, vos familles, tout ça, ça appartient à Dieu. Et c'est vrai, au fond. Et on est beaucoup plus en paix et en joie quand on peut donner ces choses à Dieu en disant, ça t'appartient Seigneur, c'est toi qui me les as données, tu me les as confiées. Mais c'est à toi qu'elles appartiennent. Pauvre veuve, bien sûr, mais dans un sens bien différent que nous l'entendons habituellement. Son nom est inconnu, je l'ai dit encore, mais J'aurais bien aimé la rencontrer, cette dame. Mais peut-être que vous en avez croisé autour de vous, des gens comme ça. Et il y en a. Et il y a de nombreux témoignages. Eux l'ont fait. On devrait être reconnaissant pour l'exemple qu'elle nous donne. Il n'y a aucune mesure entre les deux petites pièces dont je vous parlais et puis ces deux petites pièces à elle. Ces deux petites pièces à elle, c'est tout ce qu'elle avait, qu'elle a donné. Et il est vrai qu'en général, ce que nous donnons n'affecte pas finalement notre manière de vivre. J'ai mon beau-frère John qui, on parle souvent de problèmes, de challenges dans la vie chrétienne. Et il me dit, mais qu'est-ce qui change dans ta vie? Qu'est-ce qui fait? Quel est le challenge que tu peux poser dans ta vie par rapport au bien matériel? Est-ce que vous avez un challenge que vous pouvez poser dans votre vie par rapport au bien matériel? J'entends, j'ai décidé de changer de manière de vivre. Il y en a un qui a vendu sa maison pour vivre beaucoup plus humblement. Parce qu'il s'apercevait qu'il travaillait pour gagner de l'argent, pour payer à droite à gauche. Et il dit, ben comme ça, je travaillerai moins. Et comme ça, je pourrai plus faire d'autres choses dans la vie. Alors, ça peut être pour son bien à soi, mais ça peut être aussi pour l'œuvre de Dieu. Et c'est dans ce sens-là que je vous en parle. Et puis après, il y a aussi donner plus autour de vous. Regardez, il y a plein d'œuvres de charité qui sont bien. Regardez, des sites chrétiens et qui ont besoin d'aide. Souvent, quand on donne, c'est de notre superflu. Et la plus grande bataille dans tout cela, c'est de commencer. Alors, une fois que c'est donné, ce n'est déjà plus à moi. Jésus nous enseigne que celui qui veut gagner sa vie la perdra, mais que quiconque renoncera à sa vie à cause de lui et de son évangile sera sauvé. Vous avez le texte de conclusion qui se trouve sur votre petite feuille dans 1 Timothée. Et il s'adresse aux gens riches, et vous pouvez vous dire, mais non, mais je ne suis pas riche, moi. Non, on est tous riches. On est tous riches d'une certaine manière ici. Et si vous êtes dans le besoin, il faut le dire. Allez voir quelqu'un et dites, franchement, j'ai des gros soucis. J'ai des gros soucis, faites-le nous savoir. Parce qu'on a besoin de savoir aussi, et on peut aider, on peut partager. C'était une des œuvres de l'Église primitive, ils avaient tout mis en commun. Bon, évidemment, on ne vit pas tous ensemble, mais on peut mettre des choses en commun et partager. Je vous invite à prier avec moi. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ce qu'elle nous enseigne, Seigneur. Et ta parole est comme une épée à double tranchant, tu nous le dis, qui est capable de séparer jointure et moelle. Seigneur, nous voulons recevoir cette parole non pas comme une épée qui nous transperce le cœur, Seigneur, mais comme une bénédiction qui nous libère, qui coupe les liens que nous pouvons avoir avec les richesses. Nous voulons, Seigneur, te remettre tout ce que nous avons, parce que c'est à toi que tout appartient, Seigneur. Il n'y a rien que nous ayons que tu nous aies donné. Seigneur, aide-nous à savoir bien gérer les biens que tu nous confies, à pouvoir ne pas mettre notre confiance dans ces biens, mais en toi, Seigneur, toute notre confiance en toi. Donne-nous de la sagesse et que nous puissions, Seigneur, par cet exemple, être lumière du monde et celle de la terre. Non pas moralement, Seigneur, mais avec tout ce que nous avons. Par le nom de Jésus-Christ. Amen.